Après la musique, c'est par la gymnastique que nous élèverons les jeunes gens. Sans doute. Il faut qu'ils s'y appliquent sérieusement pendant toute la vie, à commencer dès l'enfance. Voici ma pensée à ce sujet. Vois si c'est aussi la tienne. Ce n'est pas, à mon avis, le corps, si bien constitué qu'il soit, qui par sa vertu rend l'âme bonne. C'est au contraire l'âme qui, lorsqu'elle est bonne, donne au corps, par la vertu qui lui est propre, toute la perfection dont il est capable. Que t'en semble? Je suis de ton avis, Socrate. Si donc, après avoir cultivé l'âme avec le soin nécessaire, nous lui laissions la surveillance et la direction de tout ce qui se rapporte au corps, nous bornant ici à présenter le modèle qui doit la guider, pour n'avoir pas à discourir trop longtemps, ne ferions-nous pas bien? Oui, Socrate. Nous avons déjà défendu l'ivresse aux guerriers, parce qu'il convient à un gardien de l'État, moins qu'à qui que ce soit, de s'enivrer et de ne pas savoir où il en est. En effet, il serait ridicule qu'un gardien eût lui-même besoin d'être gardé. Que réglerons-nous sur la nourriture? Les guerriers ne sont-ils pas des athlètes réservés aux plus grands de tous les combats? Oui. Le régime des athlètes ordinaires leur conviendrait-il? Peut-être. Ce régime accorde trop au sommeil et n'est pas sûr pour la santé. Ne vois-tu pas que les gens de ce métier passent leur vie à dormir, et que pour peu qu'ils s'écartent de la manière de vivre qu'on leur a prescrite, ils tombent dangereusement malades? Oui, je le vois, Socrate. Il faut un régime moins scrupuleux pour des athlètes guerriers qui, comme les chiens, doivent être toujours alertes, avoir la vue perçante et l'oreille fine, et tout en changeant sans cesse en campagne de boissons et de nourriture, en s'exposant tour à tour aux frimas et au soleil brûlant, conserver une santé inébranlable. Sans contredit. La meilleure gymnastique n'est-elle pas sœur de la musique simple dont nous parlions il n'y a pas longtemps? Comment dis-tu? J'entends une gymnastique simple, dégagée, et telle qu'elle doit être surtout pour des guerriers. En quoi consiste-t-elle? Homère nous l'apprendra. Tu sais qu'à la guerre, dans les repas des héros, il ne leur fait jamais manger ni poisson, et cela, quoiquils se trouvent au bord de la mer, sur l'Hellespont, ni viande bouillie, mais seulement des viandes rôties. Après, commode pour des gens de guerre, à qui il est bien plus aisé de se servir simplement du feu que de traîner avec eux des vases de cuisine. J'en conviens. Je ne crois pas non plus qu'Homère parle jamais de ragoût. Les athlètes eux-mêmes ne savent-ils pas qu'il faut s'en abstenir quand on veut bien se porter? Assurément, ils le savent et s'en abstiennent. Si ce régime de vie te semble convenable, tu n'approuves donc pas, mon cher ami, les festins de Syracuse, ni cette variété de mets ordinaire en Sicile. Non. Tu ne crois pas non plus qu'une jeune Corinthienne doive plaire à des gens qui veulent jouir d'une santé robuste. Non, certes. Tu blâmeras aussi la délicatesse, si vantée, de la pâtisserie attique. Je n'hésite pas à le faire, Socrate. On pourrait comparer, ce me semble, un régime de vie aussi varié à la mélodie et au chant où entrent tous les tons et tous les rythmes. La comparaison serait fort juste, Socrate. Ici, la variété produit le dérèglement, là, elle engendre la maladie. Dans la musique, la simplicité rend l'âme sage. Dans la gymnastique, elle rend le corps sain. Cela est très vrai, Socrate. Mais dans un état où abondent le dérèglement et les maladies, il faut bien que des tribunaux et des hospices s'ouvrent en grand nombre. Et la chicane et la médecine sont bientôt en honneur lorsqu'une foule de citoyens bien nés se livrent à ces professions. N'est-ce pas? Certainement, Socrate. Est-il dans un état une marque plus sûre d'une mauvaise éducation que le besoin de médecins et de juges habiles, non seulement pour le bas peuple et les artisans, mais encore pour ceux qui se piquent d'avoir reçu une éducation libérale? N'est-ce pas une chose honteuse et la preuve frappante d'un défaut d'éducation de faire les autres ses maîtres et ses juges et d'être forcé d'avoir recours à une justice d'emprunt faute d'être juste soi-même? Rien n'est plus honteux, en effet. Ne l'est-il pas encore plus, non seulement de passer la plus grande partie de sa vie devant les tribunaux, à poursuivre et à soutenir des procès, mais même d'en venir, par la bassesse de ses sentiments, à tirer vanité de savoir être injuste, et de pouvoir éviter, à travers mille détours et par toutes sortes de feintes, comme un lutteur habile, le châtiment que l'on mérite. Et cela dans la vue d'un misérable intérêt, parce qu'on ne voit pas combien il est plus beau et plus avantageux de se conduire dans la vie de manière à n'avoir jamais besoin d'un juge qui s'endort sans cesse. Oui, cela me paraît plus honteux encore, Socrate. D'un autre côté, recourir à l'art du médecin, non pour des blessures ni pour quelque maladie produite par la saison, mais grâce à cette vie molle que nous avons décrite, et qui nous remplit d'humeurs et de vapeurs malsaines comme des marécages, mettre les dignes enfants d'Esculape dans la nécessité d'inventer pour nous les mots nouveaux de fluxions et de catarrhes, n'est-ce pas là encore une chose honteuse, à ton avis? En effet, Socrate, ce sont là des noms de maladies nouveaux et extraordinaires, comme il n'en existait pas, je pense, du temps d'Esculape. Ce qui me porte à le croire, c'est que ces deux fils, au siège de Troie, ne blâmèrent point la femme qui donna pour breuvage à Eurypyle, blessé, du vin de Pramne, sur lequel elle avait répandu de la farine et du fromage râpé, toutes choses propres à engendrer la pituite, ni Patrocle qui guérit la blessure avec des simples. Il était étrange cependant de donner ce breuvage à un homme blessé. Il ne l'était pas, si tu fais réflexion, qu'avant Hérodicus, l'art de conduire, et en quelque sorte d'élever les maladies, qui est la médecine actuelle, n'était point, dit-on, mis en pratique par les disciples d'Esculape. Hérodicus était maître de gymnase. Devenu valétudinaire, il a fait de la médecine et de la gymnastique un mélange qui servit à le tourmenter, surtout lui-même, et bien d'autres après lui. Comment donc, Socrate? En lui ménageant une mort lente, car comme sa maladie était mortelle, il la suivait pas à pas sans pouvoir la guérir, et négligeant tout le reste pour la soigner, dévoré d'inquiétude pour peu qu'il s'écartât de son régime, de sorte qu'à force d'art, il parvint, jusqu'à la vieillesse, dans une vraie agonie. Son art lui rendit là un beau service. Il le méritait bien, pour n'avoir pas vu que si Esculape n'enseigna pas à ses descendants cette médecine, ce ne fut ni par ignorance, ni par défaut d'expérience, mais parce qu'il savait qu'en tout état bien policé, chaque citoyen a une tâche à remplir, et que personne n'a le loisir de passer sa vie à être malade et à se faire soigner. Nous sentons le ridicule de cette méthode chez des artisans, nous ne le sentons plus chez les riches et chez les prétendus heureux de ce monde. Explique-toi, Socrate. Qu'un charpentier soit malade, il trouve bon qu'un médecin lui donne un remède pour le faire vomir ou le purger par en bas, ou le délivre de son mal par le moyen du feu ou du fer. Mais si on vient lui prescrire un long régime, en lui mettant autour de la tête de molles enveloppes et tout ce qui s'ensuit, il a bientôt dit qu'il n'a pas le temps d'être malade, et qu'il ne lui est pas avantageux de vivre ainsi, ne s'occupant que de son mal et négligeant son travail qui l'attend. Il dit adieu à un pareil médecin, et revenant à sa vie ordinaire, Il recouvre la santé et reprend son travail. Ou si son corps ne peut résister à l'effort de la maladie, la mort vient le tirer d'embarras. Oui, voilà la médecine qui convient à un homme de cette classe. Et pourquoi? N'est-ce pas parce qu'il a un travail à faire et qu'il ne pourrait y renoncer sans perdre tout intérêt à vivre? C'est cela, Socrate. Au lieu que le riche n'a, dit-on, à remplir aucune tâche pareille qu'on ne peut être forcé de négliger sans que la vie devienne insupportable. On le dit au moins. N'admets-tu pas ce que dit Phocylide, que l'exercice de la vertu est un devoir quand on a de quoi vivre? Je pense que c'est un devoir même avant. N'allons point à cet égard contester avec Phocylide, mais voyons par nous-mêmes si le riche doit pratiquer la vertu et trouver la vie insupportable dès qu'il cesse de le faire, ou si la manie de nourrir chez soi la maladie, qui empêche le charpentier ou tout autre ouvrier d'exercer son art par les soins qu'elle lui donne, n'empêche pas aussi le riche de suivre le précepte de Phocylide. Oui, certes, elle l'empêche. Rien du moins n'y apporte plus d'obstacle que d'aller au-delà des règles de la gymnastique par un soin excessif donné au corps. Car ce soin se concilie difficilement avec celui des affaires domestiques, avec la vie des camps et les emplois publics. Mais ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est qu'il est surtout incompatible avec toute étude, tout exercice de la pensée et toute réflexion, en nous faisant redouter sans cesse des maux de tête et des éblouissements qu'on impute à la philosophie. Enfin, partout où ils se rencontrent, il empêche qu'on s'exerce et qu'on se distingue en quoi que ce soit de bien, parce qu'il fait qu'on croit toujours être malade et qu'on ne cesse de se plaindre de sa santé. Cela est inévitable. C'est, selon nous, par ces considérations qu'Esculape n'a prescrit de traitement que pour les gens qui se portent bien par nature et par régime, dans le cas seulement où il leur survient quelque maladie, et qu'il s'est borné à des potions et à des incisions sans changer leur manière de vivre, ne voulant pas faire tort à l'État. Mais à l'égard des sujets radicalement malsains, il n'a pas voulu se charger de prolonger leur vie et leur souffrance par des injections et éjections ménagées à propos, et les mettre dans le cas de produire d'autres êtres destinés probablement à leur ressembler. Il a pensé qu'il ne faut pas traiter ceux qui ne peuvent remplir la carrière marquée par la nature, parce que cela n'est avantageux ni à eux-mêmes, ni à l'État. Tu fais d'Esculape un politique, Socrate? Il est évident qu'il l'était, et ses enfants en fourniraient la preuve. Ne vois-tu pas qu'en même temps qu'ils se battaient avec intrépidité sous les murs de Troie, ils exerçaient la médecine comme je viens de dire? Ne te rappelles-tu pas que lorsque Ménélas fut blessé d'une flèche par Pandare, ils exprimèrent le sang de la blessure et y appliquèrent des remèdes salutaires. Sans lui prescrire, pas plus qu'à Euripyle, ce qu'il devait, après cela, boire ou manger. Ces simples remèdes étant bien suffisants pour guérir des guerriers qui, avant leur blessure, étaient sobres et d'un tempérament sain, eussent-ils dans le moment même pris le breuvage dont nous avons parlé. Quant à ceux qui sont sujets aux maladies et à l'intempérance, ils ne croyaient pas que la conservation de leur vie importât aux autres et à eux-mêmes, ni que la médecine dût exister pour eux, et qu'il fallût les soigner, fussent-ils plus riches que n'était Midas. Tu dis là des choses merveilleuses des fils d'Esculape, Socrate. Elles leur conviennent. Cependant, les poètes tragiques et Pindare, qui ne sont pas de notre avis, disent qu'Esculape était fils d'Apollon, et qu'ayant consenti, gagné à prix d'or, à guérir un homme riche qui se mourait, il fut frappé de la foudre. Pour nous, d'après un principe que nous avons reconnu précédemment, nous n'admettrons pas à la fois les deux parties de ce récit. Si Esculape était fils d'un dieu, dirons-nous, il ne convoitait point un gain sordide, ou, s'il le convoitait, il n'était pas fils d'un dieu. Sur ce point, tu as parfaitement raison, Socrate. Mais sur cet autre, que réponds-tu? Ne faut-il pas qu'un État possède de bons médecins? Or, les bons médecins ne sont-ils pas principalement ceux qui ont traité toutes sortes de tempéraments bons et mauvais? Et les bons juges, ceux qui ont fait l'expérience d'une foule de caractères différents? Sans doute je veux de bons médecins et de bons juges, mais sais-tu qui j'entends par là? Je le saurai, Socrate, si tu me le dis. Je vais essayer de te le dire, mais tu m'interroges sur deux choses bien différentes. Comment? Le plus habile médecin serait celui qui, après avoir appris de bonne heure les principes de son art, aurait fait connaissance avec le plus grand nombre de corps et les plus mal constitués, et qui, lui-même d'une santé naturellement mauvaise, aurait eu toutes sortes de maladies. Car ce n'est point par le corps que les médecins guérissent le corps, autrement il ne devrait jamais être malade par nature ou par accident. C'est par l'âme, laquelle ne peut bien guérir quelque mal que ce soit, si, par nature ou par accident, elle est malade elle-même. Bien. Mais le juge, mon cher, commande à l'âme par l'âme. Et il ne convient pas à l'âme d'avoir eu de bonheur, commerce et habitude avec des hommes pervers, ni d'avoir elle-même passé par la pratique de tous les crimes, afin que sa propre injustice la rende habile à apprécier l'injustice d'autrui, comme les maladies du médecin lui font reconnaître celles des autres. Au contraire, il faut que cette âme ait été, dès l'enfance, innocente et pure de vices, afin que la vertu lui donne le discernement exact de ce qui est juste. C'est aussi pourquoi les gens de bien dans la jeunesse sont simples et facilement trompés par les méchants, parce qu'ils n'ont rien dans le cœur qui leur révèle celui des méchants. Oui, je l'avoue, ils sont bien souvent trompés. Le bon juge ne sera donc pas un jeune homme, mais un vieillard qui ait acquis une connaissance tardive de l'injustice, et qui la connaisse, non pour la trouver dans son âme, mais pour avoir étudié, à force de temps, dans l'âme des autres, tout ce qu'elle a de mal, par la science seule, et non par sa propre expérience. C'est bien ainsi que je conçois le vrai juge aussi, Socrate. Et c'est un bon juge, comme tu en demandais, car celui qui a l'âme bonne est bon. Au contraire, cet homme, si habile, si prompt à soupçonner le mal, qui lui-même ayant commis 1000 injustices, se croit d'une adresse et d'une prudence consommées, sans doute, lorsqu'il est en rapport avec ses semblables, paraît d'un tact merveilleux, grâce aux indications que lui fournit sa propre conscience. Mais qu'il se trouve avec des gens de bien déjà avancés en âge, alors son incapacité se dévoile par des défiances déplacées et par l'ignorance où il est des caractères de l'honnêteté, dont il n'a point le modèle en lui-même. Mais comme il a plus souvent commerce avec les méchants qu'avec les gens de bien, il passe plutôt pour éclairé que pour ignorant à ses propres yeux et à ceux des autres. Rien de plus vrai, Socrate. Ce n'est donc pas dans cet homme, mais dans l'autre, qu'il faut chercher le bon et habile juge. En effet, la perversité ne saurait à la fois se connaître elle-même et la vertu. Mais la vertu, dans son développement naturel, finira par se connaître elle-même et connaître le vice. Ainsi donc, selon moi, c'est à l'homme vertueux et non au méchant qu'il appartient de devenir habile. Je pense comme toi, Socrate. Ainsi, tu établiras dans l'État une médecine et une judicature, telles que nous l'entendons, à l'usage de ceux de nos citoyens qui seront bien constitués de corps et d'âme. Et quant aux autres, on laissera mourir ceux dont le corps est mal constitué, et on mettra à mort ceux dont l'âme est naturellement méchante et incorrigible. C'est évidemment ce qu'il y a de mieux à faire, et pour eux-mêmes et pour l'État. Mais il est clair que le jeune homme élevé dans les principes de cette musique simple, qui, disions-nous, fait naître la tempérance, évitera sans peine d'avoir recours au juge. Oui, Socrate. Si après la musique, il suit une gymnastique fondée sur les mêmes principes, ne parviendra-t-il pas, s'il le veut, à se passer de médecin, hors les cas de nécessité accidentelle? Je le crois. Dans tous les exercices gymniques et les travaux corporels, il aura pour but de développer en lui la force morale plutôt que la vigueur physique. Il n'imitera pas les athlètes qui ne s'imposent un régime et des exercices que pour devenir plus robustes. Fort bien, Socrate.